On est sur France Inter et il est
9h39. Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est un monde qu'elle a bien connu, c'est un monde qui n'est plus. C'est une enquête menée tout autour de la planète à la première personne. Elle fut actrice et réalisatrice de films hard. Elle tend le micro à celles qui tournent aujourd'hui et dont le nom n'apparaît même plus ou à peine au générique. Des femmes physiquement bousillées par une industrie qui s'est transformée. 100 milliards de vidéos porno sont piratées et visionnées gratuitement sur Internet chaque année. 100 milliards. Où va l'argent ? Mystère. Il y a des empires numériques sans visage qui causent des ravages. Bonjour Ovidie.
Bonjour.
Pornocratie est diffusée ce soir à 21h sur Canal+. C'est une enquête très bien structurée, très solide, édifiante, vraiment. Toute
Merci.
L'équipe de l'Instant M est restée sans voix hier après-midi. On va en parler avec vous. On va en parler aussi avec tous les auditeurs et les internautes qui nous regardent sur Facebook Live en direct ce matin. Avant cela, une petite histoire de France Inter, un au revoir et du rock'n'roll. Hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera.
Un jour que j'étais jeune productrice, blanc-bec, qui chantait du France Gall à tue-tête et qui ne voulait pas s'en laisser compter, je suis passée voir Jean-Michel Montu, le king de la programmation musicale chez nous. Celui qui m'a guidée et tenu la main été après été quand j'animais mes premières émissions. Jean-Michel, je veux diffuser mes chansons préférées. Please, please, mets-moi du disco et du Joe Dassin plein mon grand bain. Jean-Michel s'est levé, grand ours barbu et tatoué, remontant la capuche de son sweat Carhartt. Écoute Sonia, France Inter, c'est France Inter. Pour toute ma génération, c'était justement pas Europe 1. Nous, on détestait cette variété-là. Inter, c'était notre bunker, notre combat, notre volonté farouche de défendre le rock, le jazz, la world, la pop, les textes, tous ces artistes qu'on a aimés, non pas... qu'on a programmé, je suis émue, lui aussi j'en suis sûre, d'ailleurs il voulait surtout pas de ça. Tous ces artistes qu'on a programmés, non pas parce qu'ils marchaient ou parce qu'ils plaisaient, mais parce que profondément on les aimait. Alors après, j'ai plus rien dit. J'ai appris à goûter ce que précisément je ne pouvais ni découvrir seul, ni entendre ailleurs. Jean-Michel Montu quitte la maison au terme d'une longue et belle carrière. Montu le sanguin, l'hypersensible, Montu le bougon, le généreux, Montu en musique, ça donne ça. Miles Davis, Massive Attack, Peter Gabriel, Radiohead, The White Stripes, parce qu'il fallait finir par du rock'n'roll, des titres murmurés par Jean-Baptiste Audibert et Djoubaka, tes amis et tes confrères, mixés par Rémi Quincet, montés par Violaine Ballet, notre réalisatrice qui trace sa route depuis longtemps à tes côtés, Jean-Michel Montu, et qui, comme nous tous, te sourit et te salue.
L'Instant M, avec Sonia De Villers.
Voilà, et l'invité de l'Instant M ce matin, c'est Ovidie. Ovidie, actrice et réalisatrice de Hard pendant presque 20 ans. Nous vous avions reçu, Ovidie, dans l'Instant M pour votre précédent documentaire Cela traitait de l'influence du porno en accès libre sur les pratiques sexuelles, influence sur l'image du corps, sur l'estime de soi, auprès des plus jeunes notamment. Aujourd'hui, vous partez, vous sillonnez la planète des États-Unis à la Roumanie, vous partez à la rencontre de celles qui payent de leur chair la transformation de cette industrie. Alors, je le dis, ce film, il est comme vous, puisque c'est la deuxième fois que je vous rencontre. Ce film, il est comme vous, il est sobre, il est respectueux, vous êtes plutôt une jeune femme timide et un peu en retrait. Mais on ne peut pas raconter cette histoire sans dire concrètement ce que ces femmes endurent physiquement. Alors, on est mercredi matin, si les enfants sont auprès de vous, le mieux, ce serait de baisser le son. Pas toute l'émission, mais juste quelques instants.
Alors eux, c'est pas compliqué. Une fille qui est vierge du cul, elle arrive. Aujourd'hui, c'est anal et double. Demain, c'est double anal. Après-demain, si on peut, on essaie de lui en mettre trois dans le cul. Il n'y a pas une fille au monde naturellement constituée qui peut prendre trois bites dans son cul si elle a jamais fait anal hier. Ça n'existe pas. Il y a un moyen de le faire. Ben, on lui fait prendre deux petites pilules d'un produit qui sert à faire les accouchements. Donc, les muscles se détendent. Et puis après, on lui fout un kilo de lidocaïne dans le cul. Comme ça, elle sent plus rien. Comme les mecs, ils ont les injections dans la bite ou ils sont ultra dopés, ils s'en foutent parce que normalement, si tu mets des trucs anesthésiés dans la bite, elle tombe. Mais quand tu as pris des injections, ça tombe pas. Donc, ils détruisent les meufs parce qu'ils les cassent en plus. Donc voilà, ces gens-là, ils méritent une balle dans la tête.
Voilà, et les femmes, elles, finissent à l'hôpital. On est à Budapest, capitale du porno en Europe. D'abord, vous rencontrez Ovidie, un tandem de femmes très, très étranges. Elles sont très jolies, elles sont très souriantes, elles sont très sympathiques, elles sont très joviales. Elles tiennent une sorte de catalogue de filles, de catalogue où elles sont listées, mensurations, physiques, prestations, ce qu'elles acceptent de faire avec leurs tarifs. Elles ont aussi une maison pour les héberger.
Oui, une model house, comme pour les mannequins ou les danseuses de cabaret. Oui, c'est ça.
Voilà, et ces femmes regardent la caméra avec encore une fois un grand sourire et vous disent, depuis que le porno, il est partout, l'humanité, elle est devenue plus perverse, plus tordue, et les filles sont moins belles et les pratiques sont plus rudes. Mais elles assument ça parfaitement.
Elles assument ça et d'un autre côté, ce rire qu'elles ont, qu'on retrouve d'ailleurs avec les autres actrices russes que je suis ensuite, qui viennent donc dans cette model house en Hongrie, ce rire, c'est une forme de pudeur aussi, pour camoufler une certaine souffrance, faut le dire. Quand elles disent en riant, l'humanité est devenue folle, ça les amuse pas du tout. C'est une façon, je pense que c'est un mécanisme de défense pour mieux supporter cette réalité.
Alors, les tarifs des filles, 10 fois inférieurs à ce que vous avez pu connaître par le passé. L'une d'entre elles rejoint justement la model house après une journée de tournage. On lui dit alors, tu voulais tourner avec Rocco. Rocco, c'est Rocco Siffredi. T'as tourné avec Rocco. Le résultat, c'est que le Rocco, il a été hyper violent, qu'elle a les joues tuméfiées par les baffes et que l'une de ses amies lui demande si elle peut encore marcher normalement.
Oui, et pourtant, je dirais, le fait que ces actrices-là aillent sur un tournage de Rocco, ça a été un hasard, parce que mon ennemi, on va dire, de ce film, c'est pas Rocco, parce que Rocco n'incarne pas les tubes, mais je dirais, ces tournages-là sont symptomatiques de normes qui ont évolué dans ce milieu et de pratiques qui sont devenues de plus en plus hardes. Et effectivement, il y a cet envers du décor qu'on ne voit pas forcément, parce que les gens sont souvent dans le déni. Quand ils regardent une scène comme ça, qui est un peu brutale, ils aiment bien imaginer que l'actrice, de toute façon, elle est excitée par ça, que ça lui plaît, etc. Mais je me dis, faut vraiment être dans le déni ou stupide ou biberonné, peut-être à la culture du viol aussi, pour imaginer un quart de seconde que cette fille qui supporte des dilatations qui sont, on va dire, vraiment hors normes et qui en prime se prend des claques, est vraiment excitée par ça. Je veux dire, donc ce que j'ai voulu montrer et qu'elles ont accepté de montrer, c'est cet envers du décor, c'est ces moments où elles rentrent de tournage, où elles sont pas du tout, elles se plaignent pas, elles ne se plaignent jamais.
Jamais.
Mais elles rentrent, elles disent, ah tiens, regarde, il m'a ouvert la lèvre. Là, c'est pas Rocco, c'était un autre acteur, mais ah tiens, regarde, il m'a ouvert la lèvre. Ah bah tiens, fais voir, tu peux me donner ton produit anti-inflammatoire. Puis elles essaient d'en ricaner, puis elles disent, oh, mais n'empêche, ma journée a été vachement dure. Et puis la vie continue, quoi. Mais
alors, ce qui est paradoxal, Ovidie, c'est que ces actrices, elles ont grandi avec ce porno, justement, ce porno accessible à tous, y compris aux plus jeunes, qu'elles acceptent des pratiques que des réalisateurs et des producteurs n'auraient jamais osé proposer il y a quelques années. Et en même temps, ce qui est paradoxal, et ce qui est raconté par les femmes qui tiennent cette model house, c'est que dans la vie, ces pratiques, elles les avaient jamais essayées. Leur première fois, c'est sur un tournage.
Ouais. Oui, c'est vrai, elles essaient, ben, quand elles arrivent, déjà, elles sont assez jeunes, elles ont, on va dire, entre 18 et 23 ans, quoi, mm-hmm. en moyenne. Donc, elles n'ont pas forcément une très grande expérience sexuelle. Puis d'ailleurs, elles choisissent pas ce métier forcément par fantasme. Elles choisissent ce métier parce que c'est un métier. Et donc, elles essaient toutes ces pratiques-là sur, mais elles sont, même pas étonnée finalement, parce que effectivement cette génération là c'est intéressant, c'est la première génération d'actrices qui arrive, qui elle-même a grandi avec le porno sur internet, donc c'est intéressant de voir qu'elles-mêmes ont déjà intégré certaines pratiques qui il y a 10 ans étaient marginales. C'est ce que dit d'ailleurs le réalisateur Pierre Woundman, qui lui fait passer des castings, et il dit c'est déjà arrivé que des filles arrivent dans ces castings, se présentent et disent « Ah, je te connais depuis que j'ai l'âge de 8 ans ». Il dit « Mais ce n'est pas normal, c'est au-delà du réel ».
C'est au-delà du réel. Alors pourquoi est-ce que les gamines, justement, connaissent le porno, connaissent les réalisateurs, connaissent les actrices et les pratiques ? Parce que les sites sont gratuits, qu'ils sont ouverts à tous, qu'ils ne sont pas contrôlés. Ces sites, on les appelle les tubes, ils sont apparus en gros entre 2006 et 2008. Pornhub vous souhaite un très joyeux Noël. Ça, c'est pas dans votre film. C'est une campagne de pub absolument magnifique, léchée, sophistiquée, diffusée à la télé américaine qu'on vous a trouvée et qu'on vous diffuse. Silent night, lonely night, so lonely, so horny. À l'antenne,
c'est d'un cynisme absolu.
C'est magnifique, c'est Love Actually, c'est une vraie comédie romantique. Alors le problème est pas tant, on va y venir, là on en a parlé, que ce soit du porno. Le problème, c'est surtout que tout ça se montre à la télévision à travers des pubs totalement légales, alors que c'est un business illégal. En quoi c'est un business illégal ? C'est que c'est un business entièrement nourri par le piratage. Or, le piratage est interdit par la loi. C'est exactement comme si on faisait de la pub pour du trafic de drogue ou de la vente d'armes ou de l'évasion fiscale, Ovidie.
Alors, je dirais pas entièrement, je dirais majoritairement. C'est un business qui s'est construit sur le piratage. Mm-hmm. Et ces multinationales-là ont eu le génie, je dirais, de saigner à blanc toutes les productions de films pornographiques et de les racheter. Une fois qu'elles valaient plus un copec, en gros, elles ont cannibalisé tout ce secteur pour étendre un monopole et pour étendre leur pouvoir total, finalement, pour que plus personne ne puisse se liguer contre eux. Ça a été diablement malin. Donc effectivement, ça s'est construit à l'origine sur l'illégalité. Ça ne respecte pas la loi au niveau du piratage, mais en tout cas pour les lois européennes, pour la loi française, ça ne respecte pas la loi de protection des mineurs non plus, parce qu'en France, on n'a pas le droit de diffuser comme ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans aucune restriction. Alors, du contenu accessible aux mineurs.
Les effets sur l'industrie ont été immédiats. Le marché du DVD s'écroule totalement, conjugué aux effets de la crise en 2008. Tous les studios, enfin beaucoup de studios, mettent la clé sous la porte. 70% du business a disparu. Et l'un des producteurs que vous retrouvez sur un salon où vous aviez coutume d'aller, qui aujourd'hui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était, c'est à Berlin, vous dit « Mais enfin, c'est fou, les Chinois peuvent bloquer Google et nous, on ne fait rien contre une quinzaine de sites. Rien !» Oui. Rien. Mais les autorités ne font rien. C'est ça la leçon de ce film.
Mais c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve ça complètement fou. Ils ne font rien. Les personnes qui ont ce pouvoir de légiférer, qui ont ce pouvoir d'intervention, mais ils ne font rien. Ils s'en foutent. C'est complètement fou. Enfin, on en arrive à une situation. On sait que les gamins consomment du porno sur ces sites. On sait que les pratiques sont de plus en plus violentes. On sait que c'est du piratage. Tout ça, on le sait. Maintenant, on sait aussi que ce sont des montages financiers qui sont pas tout à fait clairs. Et malgré tout, eh ben, tout le monde s'en fout, personne ne s'en émeut. Pourquoi ? Parce que le porno, c'est un secteur qu'on ne prend pas au sérieux. C'est un secteur sale, il n'y a aucun politique qui veut s'emparer du sujet parce qu'ils ont peur de paraître réac, conservateur, cucéré, etc., liberticide. Ils ne veulent pas intervenir là-dessus, ils n'y comprennent rien. La plupart des politiques, déjà, ne comprennent rien à Internet, faut le dire. Quand on voit Adopi, ça a été une catastrophe. Mmh. Et ils ne comprennent rien au porno. Donc non, il serait peut-être temps qu'ils réagissent. Moi, à travers ce film, j'appelle même pas les consommateurs à un sursaut éthique. C'est même pas ça ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait enfin une personnalité politique qui regarde ce putain de film, qui le regarde et qui dise « Ah oui, effectivement, il se passe quelque chose de tout à fait illégal. »
Alors, il se passe quelque chose de tout à fait illégal. Il y a très peu de journalistes qui se sont penchés sur le sujet, mais il y a de très grands journalistes, Die Welt, notamment le quotidien allemand. 9 mois d'enquête pour savoir qui est Fabien Tillmann. Qui est Fabien Tillmann? Zimmerman. Création de YouPorn en 2006, JT, le fondateur de YouPorn, revend très vite ses parts à cet informaticien allemand totalement inconnu au bataillon très jeune, un geek, en fait, qui en 3 ans va devenir l'homme le plus puissant de la planète, Hard, qui rachète à tour de bras les sites, vous l'avez dit. Et Manwin va être la première multinationale du X. C'est une forme de monopole totalement inédit. Hein. Il rachète aussi les plus grands sites amateurs, My Dirty Baby. Là-dessus, on pompe 78% des revenus des vidéastes amateurs. Donc, ça touche tout le monde, finalement. Hein. Tous les étages, finalement, de ce secteur. Tellement puissant que là, on vous diffuse une campagne de pub que vous montrez dans le film. On en est resté sans voix. Il finance une campagne de pub contre la mesure B. La mesure B, c'était le port obligatoire du préservatif sur les tournages.
Hi, I'm Tara Patrick.
And I'm Ron Jeremy.
A mandatory condom law will not make our workplace any safer, but it will drive our $20 billion industry and 10,000 jobs out of LA County.
Vote no on Measure B and keep the adult business in California.
Votez non, voilà ce que ça dit, votez non, cette mesure B fera perdre 40 milliards à l'industrie et détruira 10 000 emplois à Los Angeles. Et vous vous dites, pile cette année-là, il y avait une épidémie de syphilis sur les tournages.
Exactement, il y a eu une épidémie de syphilis qui a touché les États-Unis, mais l'Europe également. Il y a plusieurs centaines de performeurs qui se sont fait des piqûres de pénicilline parce qu'ils étaient concernés par l'affaire. Et parce qu'à l'origine, tout était parti d'un acteur qui a eu peur de louper ses petits contrats, qui a eu peur de louper ses quelques poignées de dollars et qui a falsifié son test. Et il y en a eu d'autres derrière qui ont falsifié aussi.
Et Manwin va plus loin parce que Manwin propose même d'imposer son propre laboratoire et donc de centraliser les analyses médicales.
Ça, c'est une histoire assez complexe. C'est-à-dire, c'est pas eux directement. Je dirais qu'ils ont financé un laboratoire. En tout cas, c'est ce que rapporte le réalisateur Pierre Woodman dans le film. Mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que cette campagne contre le préservatif ait été en partie financée par cette multinationale. C'est assez hallucinant. À l'époque, je m'étais demandé, mais pourquoi il y a autant d'acteurs qui se liguent contre cette mesure? Je me dis, ça les protège quand même. Comment ça se fait que tout ce métier passe dans tous les médias américains pour dire, non, surtout votez contre? Mais en fait, c'était logique. C'est parce que derrière, la multinationale qui a le monopole du business finançait cette campagne. C'était très dur de se liguer, de dire, attendez, non, on n'est pas d'accord.
Enfin, justement, vous traquez, mais on a l'impression d'être dans un cache investigation, vous traquez la pieuvre. La pieuvre, elle est sans visage. Parce que le Fabien Tillman en question, sur lequel ont enquêté 9 mois durant les confrères de Die Welt, il s'est fait arrêter en 2012. Il a disparu. Mais derrière...
En fait, il a pas vraiment disparu, mais en tout cas, il a disparu du business.
Il a arrêté.
Ça c'est clair.
Alors aujourd'hui, on se demande même s'il n'était pas un pantin, parce qu'on ne sait pas qui était derrière, parce que Manwin est devenu MindGeek, et parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une pieuvre totalement anonyme, fiscalement anonyme, et parce que énormément de ces points de relais fiscaux sont hébergés dans des paradis, et parce qu'on est face à une pieuvre très puissante et très menaçante, Ovidie.
Je pense, de toute façon, moi je me suis heurtée à un mur à la fin. De toute façon, je pense que ce sont des montages qui sont tellement complexes qu'on ne saura jamais vraiment qui est derrière. Il y a des tas de rumeurs. Les journalistes allemands, eux, ont tracé un peu la piste de l'argent. Ils sont arrivés jusqu'à un fonds de pension à Wall Street et puis la piste s'arrête là et ils ne savent pas. Il y a effectivement des rumeurs qui courent, en tout cas dans cette industrie, qui disent non mais Fabien Tillman, on n'en avait jamais entendu parler jusque-là, il sort d'où? Et il repart, et puis cette multinationale, le gérant est arrêté, la multinationale continue à tourner sans problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc tout est extrêmement flou, opaque. Donc il y a cette multinationale là qui moi m'intéressait, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais il y en a deux autres aussi. Il y a deux autres sites qui sont très importants parmi les tubes. Il y en a un qui s'appelle X-Hamster, sur lequel j'ai pas pu travailler sur tout le monde, mais X-Hamster et X-Vidéo. Bon, je suppose que ça doit pas être beaucoup mieux, quoi.
Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que même sur les questions de blanchiment d'argent, par exemple, il y a très très peu de recours en justice. C'est-à-dire, vous dites finalement, aux États-Unis, par exemple, une seule enquête 2009 Atlanta, et puis comme toutes les autres, elle finit dans les limbes ou elle se termine par un accord à l'amiable. Et puis, de toute façon, les gens ont peur de parler.
Il y a accord à l'amiable en 2009. Il y a eu en Allemagne aussi avec l'arrestation en 2012. Le jugement Tillman est passé en procès. Le procès a été jugé là le 19 décembre dernier. Mm-hmm. Et au bout de 4 ans d'investigation, on a pu dire, tiens, ils ont peut-être remonté quand même un petit peu. Et puis sinon, l'éléphant a couché d'une souris. Ça s'est terminé par du sursis, donc on va dire par mm-hmm. rien. Et puis un petit arrangement à l'amiable. Cette histoire de blanchiment, c'est un bloqueur qui évoque cette possibilité-là. Nous, on n'a absolument pas la preuve de ça. On peut que se dire, il y a de l'optimisation fiscale un petit peu chelou dans l'air. Mais on n'a pas pu, personne n'a pu le prouver.
Personne.
Il n'y a pas eu de jugement pour ça. Il n'y a que un espèce de réseau.
C'est
de
le mur du silence.
Et il n'y a pas, visiblement, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse menée là-dessus. Voilà. Ça, j'ai envie de dire, cette partie financière, c'est même pas à moi de dire, allez-y, jetez un œil. Moi, c'est déjà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on applique la loi de protection des mineurs et ce serait déjà juste colossal, quoi.
Merci beaucoup, Ovidie. Pornocratie, crassie, c'est le pouvoir. Justement, Pornocratie, Canal+, ce soir, 21h, c'est la fin de l'Instant M.